Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est le Club des Idées comme tous les vendredis. Ce soir, les experts sont-ils hors sol ? Ils ne sont pas directement visés par les slogans des manifestants qui défilent en France depuis quelques semaines. Personne ne réclame leur démission, mais ils sont bel et bien au cœur d'une défiance assez inédite dans notre pays depuis plusieurs années. Je veux parler des experts, hauts fonctionnaires, dirigeants d'entreprises, responsables syndicaux, scientifiques, journalistes, chercheurs, intellectuels et on en oublie. Dans des registres très différents, ces sachants, ces connaisseurs des grandes questions de notre époque sont consultés par nos dirigeants au quotidien et parfois très étroitement associés à la fabrique de l'action publique. Et c'est logiquement qu'ils concentrent aussi sur eux les critiques formulées contre cette action publique qui serait devenue trop distante des citoyens, trop technocratique, trop sujette aussi aux conflits d'intérêts. C'est l'une des raisons qui ont amené France Stratégie, un organisme d'expertise et de prospective placé sous l'autorité du Premier ministre, à s'intéresser à cette défiance qui ne date pas, loin s'en faut, de la crise des Gilets jaunes. Expertise et démocratie, c'est le titre d'un rapport de cette institution qui paraît ces jours-ci et qui nous donne à nous aussi l'occasion de nous interroger. Les experts sont-ils nécessaires pour le fonctionnement de notre vie publique ? Ont-ils au contraire dangereusement empiété sur une souveraineté populaire qu'il faudrait dès lors restaurer ? Et comment ? Les experts sont-ils hors sol ? C'est la question que nous posons ce soir en compagnie de trois invités, deux membres de notre Club des Idées hebdomadaire. Géraldine Mühlmann, bonsoir.
Bonsoir Antoine.
Vous êtes professeure de sciences politiques et de philosophie à l'Université Paris 2. Laetitia Straude-Bonnard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, éditorialiste pour le magazine Le Point. Et notre troisième invité est professeur de philosophie et chef de projet, c'est votre titre officiel, pour France Stratégie. Et c'est dans ce cadre que nous vous recevons ce soir. Daniel Agacinski, bonsoir.
Bonsoir.
Puisque vous avez dirigé ce rapport que je citais à l'instant, Expertise et démocratie, faire avec la défiance. Alors, pour commencer cette émission, je voudrais vous demander à tous les trois, ce sera peut-être un premier tour de table, si la crise sociale et politique que nous vivons depuis plusieurs semaines en France, la crise des Gilets jaunes, vous semble traduire ce sentiment de défiance, un sentiment de défiance en tout cas qui existerait aujourd'hui contre les experts. Je vous donne d'abord la parole à vous, hein, Daniel Agacinski, pour commencer. Cette crise des Gilets jaunes, c'est une défiance. Alors, on pourrait le dire de plusieurs manières, peut-être les dérives de l'expertise ou le pouvoir des sachants, selon vous, comment vous feriez ce lien ?
Oui, même si vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas explicite dans les revendications ou dans les critiques, on voit des choses qui viennent de loin et qu'on avait déjà évoquées dans un rapport en 2016 à France Stratégie qui s'appelait « Ligne de faille », des choses qui viennent de loin dans l'écart qu'il y a entre la façon dont les Français, dans leur grande majorité, perçoivent la réalité sociale et la façon dont elle est traduite dans les statistiques, dans la connaissance au service du pouvoir. Ça se voit sur les inégalités, ça se voit sur le poids de la richesse, sur les écarts entre les territoires. Et cette fracture qui est durable dans la perception des phénomènes sociaux, on entend souvent chez les élites, les experts, les responsables politiques, l'idée que les Français ne comprennent pas bien la situation, qu'il faudrait mieux leur expliquer, faire de la pédagogie à leur écart. Mais c'était pas du tout ce qu'on voyait. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce que disent les Français qui se mobilisent, et aussi une grande partie des autres, c'est qu'ils ne sont pas entendus et que la façon dont ils perçoivent la réalité sociale n'est pas prise en compte dans les politiques publiques. Et ça, effectivement, ça ne date pas des derniers mois, mais ça remonte à plus loin.
Laetitia Straude-Bonnard.
Alors, je serais peut-être un petit peu plus nuancée que vous à cet égard. Moi, j'ai l'impression que depuis que le mouvement des Gilets jaunes est né, on fait beaucoup de gilet-jaulogie. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir dans l'expression de cette colère, de ces revendications, à chaque fois la confirmation de ces thèses. Donc, à gauche, à droite, dans tous les courants, dans tous les médias, on voit fleurir les tribunes et les interprétations qui nous disent « Voilà, les Gilets jaunes valident exactement ma vision du monde. » Donc, je pense qu'il faudrait être un tout petit peu prudent et ne pas leur attribuer autre chose que ce qu'ils étaient au départ, c'est-à-dire l'expression d'une revendication fiscale. Ceci étant dit, je suis d'accord avec vous. Il y a le sentiment, en tout cas dans cette France qu'on a pu appeler la France périphérique, il se passe des choses qui ne sont pas traduites. Et aujourd'hui, on est obligé de reconnaître les divisions territoriales, par exemple, et les experts ont mis énormément de temps, en fait, à en parler. Ils ont attendu aujourd'hui, finalement, pour le faire, alors que ça fait un moment que ces divisions sont présentes.
Donc, attention aux excès d'interprétation. Géraldine Mühlmann.
Bon, essayons de dire les choses simples. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'abandon
qui d'ailleurs est assez fondé, je le regrette, ce sentiment d'abandon. Un sentiment d'abandon d'une partie de la population, abandonnée donc par ces élites. Et je crois que ça c'est vrai, et que dans ces élites, il y a le personnel politique qui, moi je pense qu'ils ont raison de se sentir abandonnés. C'est pour ça que c'est terrible. Après on peut discuter de cette révolte et de ses éventuels effets positifs et négatifs. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Ça va pas être que... C'est pas que je formidable une révolte, c'est inquiétant aussi. Mais je comprends parfaitement ce sentiment d'abandon. Je rappelle que, il y a la droite, la gauche. Pour la gauche, je dirais que c'est un peu plus gênant parce que historiquement, normalement, la question des classes sociales, des plus dominées, ça devrait être au cœur de ces programmes et de ces préoccupations. Je me souviens d'un rapport qui m'avait beaucoup perturbé de Terra Nova, où il y avait plein d'experts de la gauche liés au Parti Socialiste qui a dit il n'y a pas si longtemps, ça fait une quinzaine d'années, je crois, qu'il fallait plus s'occuper des classes populaires, c'était plus vraiment l'électorat de gauche et que finalement
c'était plutôt des minorités
sujet.
Effectivement.
Oui, il y a eu effectivement. Moi, j'étais très très mal à l'aise face à ce rapport. Je comprends aujourd'hui que qui s'en est occupé des classes populaires. Je veux dire, même les médias, je dirais que les questions, tout un tas d'autres questions importantes, les questions de minorités sont aussi des questions importantes, les questions de multiculturel, tout ça c'est très important. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu oublié la question de la classe sociale pour un tas de raisons qui fait que le marxisme est plus que mort dans une partie de l'intelligentsia, qu'on n'a plus cette culture-là, et que sans être marxiste dogmatique, on peut quand même se demander s'il n'y avait pas là quelque chose qui devait nous rester, qui devait habiter nos esprits. Et je crois que les figures de l'expert qui sont très variées, très très variées, elles donnent l'impression de participer à un monde où cette question n'existe plus assez.
Alors, Daniel Agacinski, comment avez-vous mesuré concrètement cette défiance? Comment on fait quand on fait un rapport qui s'appelle La fabrique de la défiance pour prendre la mesure de cette défiance, justement?
Je vous disais, le point de départ, c'est cet écart entre les perceptions et les mesures statistiques. Donc, on s'est dit, il y a un décalage qui est l'un des fondements de l'incompréhension mutuelle, finalement, entre la façon dont les experts appréhendent la société et la façon dont, collectivement et individuellement, on se la représente. Et à partir de là, on s'est dit, notamment aussi à la suite d'une série de chocs, qui ont été un peu des traumatismes pour les experts, Trump, tous les experts de ce qu'on peut appeler l'intelligentsia disaient « c'est une catastrophe si Trump est élu », le Brexit au Royaume-Uni, tous les économistes disaient « c'est une catastrophe si le Brexit passe », ce qu'on a vu en France avec la défiance à l'égard des vaccins, où... les scientifiques, les pouvoirs publics disent il faut se vacciner et on voit qu'on a des taux d'hésitation vaccinale. Alors on parlera après de tout ce qu'il y a de polymorphe dans la défiance qu'il faudrait pas plaquer sur des choses
extrêmement différentes,
sur des choses simplistes,
pas forcément
assimilables. Mais sous une série de traumatismes qui ont touché un peu le paysage général de l'expertise, des décideurs publics, des chercheurs, des administrations de données, de statistiques, les think tanks aussi, qui étaient dans une espèce de sidération en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne nous écoute plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc on s'est dit un peu, on va mettre tout le monde autour de la table, à France Stratégie, de l'INSEE à l'EHESS, de l'équipement statistique public le plus pur à des traditions critiques de l'expertise, pour essayer non pas de se trouver des boucs émissaires, comme on le fait en général sur ces sujets-là, on entend c'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute de l'inculture économique des Français, c'est la faute des politiques qui n'écoutent pas, etc. Et de se dire, bon, c'est la faute des fake news, ça c'est la grande tarte à la crème, et de se dire, dans la fabrique de ce que nous on considère comme vrai, qu'est-ce qui dysfonctionne?
Donc, vous dites, on a mis tout le monde autour de la table, pour être précis, donc ça c'est un séminaire, en fait, le travail que vous présentez. C'est un séminaire qui a eu lieu dans votre institution, qui a duré à peu près un an. Quelle était, l'ambiance des travaux, en fait, et quelles étaient peut-être les paroles que vous entendiez? Est-ce qu'il y avait un consensus ou au contraire, est-ce qu'il y avait des paroles qui étaient difficiles d'harmoniser pour faire ce constat que vous faites sur une crise de défiance généralisée contre les experts?
Le point de départ a été toujours un peu la tentation du bouc émissaire. Hein. Les chercheurs vont vous dire c'est les énarques qui trustent le contact avec les décideurs publics. Ils vont vous dire les journalistes ne nous laissent pas 30 secondes pour présenter la complexité de nos travaux. Les journalistes vont vous dire les chercheurs sont incapables de résumer et de dire des choses claires. Et donc l'idée c'était de dépasser un peu tout ça. Et on l'a fait finalement assez facilement. Aussi parce que ceux qui sont prêts à se poser ces questions sont ceux qui ont conscience des difficultés et qui sont prêts à se mettre à la place de l'autre et aussi à la place du citoyen. Donc on avait des journalistes, des associatifs, des responsables administratifs, des politiques, etc. Et ce qu'il en est sorti, et c'est ça le message principal du rapport, c'est l'idée qu'il faut faire avec la défiance. Et arrêter de se raconter des histoires sur le registre. On va restaurer la confiance. Demain, les gens vont nous croire. On va faire de l'expertise qui maintenant va être crédible, va avoir la légitimité. Non, la défiance, elle est là, sous ses formes multiples. Et apprendre à faire avec, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça commence par vouloir dire... On reconnaît qu'elle existe, on ne se berce pas d'illusions sur notre capacité à la dissiper ou à la faire disparaître, et on fait avec les défiants. C'est-à-dire qu'on fait un effort pour incorporer la défiance sous différentes formes dans la construction de l'expertise elle-même.
Alors, faire avec cette défiance, ça fait partie aussi des préconisations que vous expliquez, hein, donc que vous détaillez à la fin de ce rapport. On en parlera un tout petit peu après dans cette émission. Mais revenir à un point dont vous avez parlé il y a un instant et qui est, je crois, central dans le thème dont nous parlons ce soir, c'est la question de savoir ce que c'est qu'un expert et qui est légitime pour réclamer justement ce titre d'expert. C'est une question que je voudrais vous poser à tous les trois. Vous dites, vous, Daniel Agacinski, que c'est la sollicitation, je vous cite dans le rapport, qui fait l'expert. Il n'y a pas d'expert en soi et pas d'experts en situation d'expertise. Donc plusieurs cas de figure évidemment selon qu'on parle d'éclairer une situation politique par une connaissance technique ou alors de réunir des gens, comme ce que vous avez fait d'ailleurs, pour tenter de dégager un intérêt général. L'expert sert à quoi et qui est l'expert aujourd'hui, Daniel Agacinski?
Nous, pour plusieurs raisons, on voulait pas rentrer d'abord par une perspective normative en disant qu'est-ce que la bonne expertise, la mauvaise expertise, qui est légitime à être expert. On voulait délibérément pas rentrer là-dedans, d'abord parce qu'on aurait été jugé parti. On est un organisme qui fait ça, qui sollicite des expertises ou qui est sollicité pour rendre des avis. Mais on voulait essayer de comprendre une structure. C'est pour ça qu'on a emprunté le concept sociologique de situation d'expertise, c'est-à-dire celle dans laquelle quelqu'un qui doit prendre une décision, qui doit accomplir une action, que ce soit un décideur politique ou un citoyen, qui est aussi un décideur politique, au moins en tant qu'il vote, va chercher à avoir une connaissance qui lui paraît nécessaire pour prendre une bonne décision. On ne juge pas de savoir s'il a raison d'aller chercher tel expert ou d'aller chercher telle connaissance. Si vous faites une réforme fiscale, vous allez demander à des économistes, vous allez demander à des sociologues les effets, etc. Si vous faites une réforme des rythmes scolaires, par exemple, vous allez demander à des chronobiologistes, à des sociologues, à des ergonomes, à toute une série. Et on n'était pas là pour juger de la qualité et de la pertinence de l'expertise, mais pour comprendre ce dont on parle, pour définir une situation qui est celle de la sollicitation de l'information pour la décision.
Il y a, selon vous, Gérard Immelmann, peut-être des abus dans cette qualification d'expert. Est-ce qu'on a tendance aujourd'hui, et j'inclus d'ailleurs dans la critique qu'on peut adresser à ce fonctionnement de la démocratie, y compris les médias, on essaye d'être ici ouvert aux critiques, mais est-ce que quand on invite des experts dans une émission de radio ou dans un séminaire ministériel pour prendre des décisions, est-ce qu'on n'a pas tendance justement à mélanger un peu tous les registres?
Sans doute, c'est la polysémie du mot expert et en plus le fait qu'il a pu être un moment très positif qui tourne au très négatif. J'aurais tendance à utiliser une réflexion de Michel Foucault, lui-même, je ne sais pas s'il faut dire philosophe, sociologue, historien, ça m'intéresse aussi que ce soit lui justement, quel expert est-il? Et qui disait à la fin des années 70 que c'était la fin de l'intellectuel universel dont le modèle était Jean-Paul Sartre et qu'on passait à ce qu'il appelait les intellectuels spécifiques, avec des savoirs fragmentés, partiels. Il ne disait pas technique, je pense que c'est intéressant, et je vois pourquoi il ne disait pas technique, parce qu'il voulait que ça circule aussi entre ces savoirs fragmentés, c'était des apports au débat public, car Foucault est quelqu'un qui disait que même l'acte de philosopher ou d'enseigner est un geste fait en public, disait-il. Il y a toujours cette question du public chez Foucault qui est très importante. Et je crois qu'un des problèmes qui s'est posé, qui fait que le mot expert s'est durci comme ça, s'est réifié comme on aurait dit dans d'autres temps, c'est que ça ne circule plus très bien entre eux, et comme vous l'avez très bien dit, Daniel Agacinski, nous sommes dans une situation où les experts ont des frictions entre eux, il y a des rapports de pouvoir, je pense qu'il y en a aussi dans les disciplines qui se sont technicisées. Vous voyez, moi si j'aime bien qu'on me rappelle que j'ai fait de la philo maintenant que je suis prof de sciences politiques et que je continue d'en faire, c'est parce que je veux aussi que ça circule et que avec les autres collègues de sciences politiques font des choses parfois très techniques, mais on discute. Et il n'y a pas de raison qu'une couleur philosophique puisse pas se mélanger à la discussion et les gens que j'apprécie en sciences politiques ont cette ouverture et moi j'essaye de la garder vis-à-vis de leur technicité. Mais il faut reconnaître que c'est pas toujours simple, que les positions techniques créent des rapports de pouvoir. Alors là, c'est, si vous voulez, Foucault, l'intellectuel spécifique, s'est retourné contre Foucault car il détestait les positions de pouvoir et toutes les promesses qu'il mettait dans l'intellectuel spécifique deviennent aujourd'hui les cauchemars de l'expert.
Laetitia Strode-Bonnard, sur cette pluralité de figures de l'expert, est-ce qu'on fait faire et dire aux experts dans la fabrication de la décision publique?
Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse sur la spécialisation croissante des experts et le fait qu'ils ne se parlent peut-être plus vraiment entre eux. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui dépasse cela et qui explique, à mon avis, la défiance, et vous n'en avez pas parlé, il me semble, c'est que tout simplement les experts se trompent. Et qu'ils se trompent beaucoup. et que le public se rend compte que les experts se trompent, et surtout qu'on ne les tient jamais responsables de leurs erreurs. Et c'est ça, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que quand quelqu'un s'est trompé dans les conseils qu'il a donnés ou dans les prévisions qu'il a faites, jamais on ne lui dit « eh bien, vous vous êtes trompé, donc on ne vous interrogera plus ». On ne vous invitera plus dans les médias, on ne prendra plus votre avis. Et je crois que les gens se rendent compte que dans leur vie quotidienne à eux, quand ils se trompent, par exemple, si vous êtes garagiste et que vous réparez mal une voiture, eh bien vous n'aurez plus de clients. Le problème, c'est qu'ils voient que les experts continuent à donner des avis et continuent à se tromper, mais qu'ils restent en place. Donc, ils ne jouent pas leur peau, en quelque sorte. Et je, à mon avis, c'est ça. Je la vois là, la défiance, je ne la vois pas autre part.
Et ça serait dû à quoi, le fait qu'on continue à faire appel aux mêmes experts, même peut-être une endogamie de certains mondes universitaires
Alors, il y a
plusieurs choses. Comment ça se passe au niveau de la formation, peut-être?
Il y a déjà l'expertise elle-même. C'est très difficile d'être un expert parce que l'expert idéal, en effet, ce serait l'intellectuel généraliste. Or, c'est de plus en plus difficile parce que les disciplines se sont extrêmement spécialisées. Donc, vous pouvez avoir une vision qui est correcte dans votre discipline, mais vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs et donc vous pouvez faire des erreurs. Et à mon avis, les meilleurs experts sont les gens qui se rapprochent souvent du bon sens, sauf qu'ils reviennent aux conclusions des bons sens grâce à l'expertise. Et donc, ils ferment cet écart entre l'expertise et le bon sens. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un problème avec les médias. Et nous faisons partie aussi du problème. Parce que les médias n'ont pas forcément le temps de vérifier à chaque fois qu'ils invitent quelqu'un si cette personne s'est trompée ou pas.
Sur cette antenne, on essaie de le faire en tout cas.
Bien sûr, mais c'est quand même très difficile parce que vous êtes face à des gens qui sont eux-mêmes très spécialisés. Comment êtes-vous capable vraiment de juger si ce chercheur est vraiment meilleur qu'un autre, où ils se situent tous les deux dans l'état du débat de leur discipline? C'est extrêmement difficile. C'est aussi parce que les médias veulent remplir. On veut remplir les grilles, on veut remplir les pages qu'on a quand il se passe quelque chose ou quand on veut parler d'un sujet. Donc, on n'a pas forcément le recul pour dire, voilà, là, on n'a pas la bonne personne et on va faire parler celui qu'on a sous la main, pour le dire de façon un petit peu triviale.
Daniel Egelsinski, vous faites un constat paradoxal dans ce rapport. Il y aurait aujourd'hui une action publique de plus en plus technique, donc déconnectée de choix idéologiques. Donc, il y aurait besoin d'une expertise pour fonctionner. C'est ça, je crois que je simplifie pas trop votre prose. Mais simultanément, il y a aussi, dites-vous, dans les discours politiques, une instrumentalisation de l'expertise et une dénonciation des experts. Alors, à quoi vous pensez quand vous parlez de cette instrumentalisation et de cette dénonciation? Est-ce que c'est, par exemple, lorsque un homme politique français ou une femme politique dénonce, par exemple, Bruxelles? Voilà. Est-ce que c'est ça, l'instrumentalisation que vous dénoncez?
Alors, je reviens juste un instant. On ne dit pas qu'elle est déconnectée des enjeux idéologiques, on dit qu'ils ne sont pas assumés, ce qui est un petit peu différent, qu'elle est moins explicitement reliée à des enjeux idéologiques.
Subtilité
et que, du coup,
taille.
Elle se joue sur le terrain, les débats se jouent souvent sur le terrain de la technique. Et cette ambivalence et cette instrumentalisation de l'expertise qu'on a chez les politiques, alors là pour le coup qui sont de tous les partis et de toutes les époques récentes, disons, c'est que le jour où effectivement il y a une expertise qui conforte une décision politique, on va avoir l'élu qui vous dit c'est pas moi qui le dis, c'est les experts. Et du jour où telle expertise ne va pas dans le sens que le politique promeut, il va vous dire mais vous savez, moi je vous écoute, moi j'écoute les Français, j'écoute pas les experts. Et donc évidemment, et dans le rapport d'ailleurs, on a deux pages comme ça de citations de président de la République, parce que voilà, c'était pour taper au plus haut et sur les derniers, où on voit qu'il passe du jour au lendemain, de cette dénonciation qui vise justement à faire fond sur la défiance supposée que les citoyens ont à l'égard des experts, et qui passe du lendemain à l'utilisation, qui n'est pas forcément instrumentalisation au sens malhonnête, mais l'utilisation de l'expertise. Et c'est lié à une forme de désidéologisation du débat politique, qui ne veut pas dire forcément désidéologisation des politiques elles-mêmes. Et ce qui est intéressant dans ce que vous disiez toutes les deux juste avant sur la fragmentation de l'expertise, qui donne lieu à une espèce de concurrence féroce, c'est que ça rend justement les politiques en situation de choisir un peu ce qui les arrange dans les disciplines et dans les méthodes d'expertise qui sont disponibles, et à se rendre aveugle à tout un pan des réalités qui reviennent dans la figure un jour ou l'autre.
Laetitia Strauss-Bonnard, il y a un effacement, selon vous, des grands clivages au nom d'une parole experte, d'une parole un peu technocratique. Peut-être aujourd'hui, ça sert d'alibi, d'argument facile, cet argument technique.
Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. Je pense que en effet, c'est une façon pour la politique de ne pas s'assumer. C'est une façon pour les politiques, en effet, de revendiquer une forme de neutralité qui les rendrait finalement post-politiques ou meilleurs décisionnaires. Mais je pense que ça vient aussi de la double nature de l'expertise. Parce que vous avez des expertises qui sont incontestables. Je ne pense pas que l'expertise soit complètement relative. Si vous êtes astronome, par exemple, ou astrophysicien, c'est vraiment difficile de dire que vous n'êtes pas expert de votre domaine. Si vous faites de la biologie moléculaire aussi, enfin, dans les sciences dures, pour le dire simplement, l'expertise est difficilement contestable. Le problème, ce sont les sciences humaines. Pourquoi ? Parce que les sciences humaines sont extrêmement complexes. D'ailleurs, peut-on les appeler des sciences ? C'est un énorme débat. Et justement, tout ce qui touche aux sciences humaines, eh bien, est sujet à études contradictoires, des recherches sur le très long terme, des disciplines nouvelles, et c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Donc je pense que le problème, c'est la définition qu'on donne de l'expertise et le fait qu'on ne reconnaisse pas peut-être assez honnêtement qu'il y a l'expertise évidente, incontestée de certaines disciplines, et de l'autre côté, il y a des disciplines qui sont toujours un peu idéologiques, qu'on le veuille ou non.
Géraldine Humann, je vous donne la parole à vous aussi sur ce point très, très précis du débat. Il y a des biais dissimulés dans les expertises. La parole technocratique aurait tendance à masquer des choix idéologiques qui ne s'assument pas, comme vient de dire Laetitia Strauss-Bonnard.
Et c'est difficile de connaître le vrai responsable. Est-ce que c'est l'expert ou qui démultiplie, mais en fait, il dit parfois tout le temps la même chose, ou le politique qui a envie de cette parole-là, mais c'est vrai qu'il y a du dogmatisme, on peut aussi dire les choses comme ça, et je pense que l'un des meilleurs exemples, qui parfois est décrypté dans certains journaux, par exemple dans Le Monde il y a 8 jours, dans les cahiers économiques, on nous expliquait, il y avait un très bon article pour dire en France, sur le SMIC, les experts consultés sont tous du même avis. Ils sont très hostiles au SMIC et notamment au coup de pouce qu'on pourrait lui donner. C'est très mauvais pour le chômage. Ça correspond à un véritable dogme économique. Il n'y a pas une grande pluralité dans les experts qui sont consultés. Et c'était intéressant parce qu'effectivement, il suffisait d'ouvrir le cahier éco 3 pages plus tard et on avait exactement ça. C'était une façon, dans un article en contrepoint, je trouvais ça pas mal dans le même cahier, de nous dire, vous savez, dans le monde entier, il y a des gens qui s'intéressent au SMIC aujourd'hui. Même en Allemagne, on y réfléchit. Et puis, par ailleurs, sur les questions son déficit budgétaire. Enfin, nous sommes en Europe et en France dans un dogmatisme absolu. Il y a des tas d'économistes dans le monde qui nous disent on ne fait pas une relance économique sans pouvoir d'achat et il faut se calmer sur le déficit budgétaire avec des chiffres de type 3% qui datent de 1992 quand même. On est complètement arc-bouté et il y a plein d'économistes bien plus connus dans le monde que ceux qui sont consultés qui disent tout à fait autre chose là-dessus. Évidemment, les économistes américains en premier lieu.
Laetitia Strauss-Bonnard, je vous vois réagir.
Juste pour réagir à ça, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, les libéraux, pour ne pas les nommer, estiment toujours qu'en France, l'économie n'est pas assez libérale. Voilà. Et les gens qui sont plutôt keynésiens estiment toujours que l'économie en France est trop libérale. Donc, bon, je ne sais pas, je pense que la vérité est peut-être un peu entre les deux. Mais moi, ce que je retiens de ce que vous dites, Géraldine Munman, c'est qu'il manque quand même la diversité des points de vue, mais de tous
c'est
les points de vue.
C'est ce que je voulais dire. Voilà. Je ne voulais pas m'engager
c'est vraiment important de le faire.
Daniel Agacinski, sur ce point.
Oui, non, pas sur ce point. Je voudrais juste remonter un instant à la distinction que, pour notre objet, je récuse radicalement entre sciences dures et sciences humaines. Non pas du tout que cette distinction n'existe pas. Évidemment, elle existe. Non pas que la robustesse des énoncés soit évidemment différenciée entre les deux grands domaines de discipline, c'est une évidence que personne ne remet en cause. Par contre, dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'expertise, la façon de s'adresser à un pouvoir ou à des citoyens quand il est une affaire de décision, l'expertise n'est pas une science. Et que le conseil qu'on donne pour articuler une vérité générale à une action, il est toujours objet de discussion. Et effectivement, on ne demande pas une vérité d'astronomie n'a pas d'intérêt de décision publique à court terme. En revanche, l'expert tel qu'on le prend comme objet ici, c'est-à-dire au fond un traducteur, un passeur du domaine de la connaissance au domaine de l'action, il est comme tous les traducteurs. Il a un travail qui ne va pas de soi à faire. Il y a toujours plusieurs traductions possibles d'un énoncé de savoir à un énoncé d'action. Et justement, la tendance à prendre le modèle des sciences dures pour donner une apparence définitive et certaine de ces énoncés avec des chiffres, avec des tableaux, avec des stats, aboutit parfois à des résultats absurdes quand on parle justement des choses humaines et qu'on est dans les sciences humaines.
Je vous laisse répondre rapidement.
Oui, mais en faisant cette distinction, c'est bien ça. C'est bien ça que je voulais souligner, l'importance, la nécessité de ne pas penser qu'on peut trouver des chiffres, des statistiques et des formules toutes simples pour les questions qui sont relatives à l'humain. Donc j'emploie le mot « science humaine » parce que c'est un mot pratique. Mais évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous, la distinction est compliquée, même si, à mon sens, quand même, il y a une différence.
Dans le domaine des sciences, c'est sûr.
C'est deux ordres, c'est deux types de sciences. Ce que vous dites, c'est tout simplement qu'il faut faire la différence entre les faits et les choix moraux, et les choix politiques. C'est qu'on peut avoir connaissance d'un fait économique, social, et prendre des décisions complètement différentes face au même fait. Et je pense que c'est ça peut-être qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. C'est à s'accorder sur certains faits, et ensuite se dire, notre différence, elle est morale ou elle est politique. Et on assume la différence du choix. Par exemple, dans l'éducation, on pourrait très bien s'accorder sur un certain nombre de choses, de méthodes, de façons d'apprendre, et ensuite décider de faire des choix différents parce qu'on ne veut pas les mêmes, on n'a pas les mêmes fins. Donc il y a une différence quand même entre les fins qu'on pose et les moyens qu'on se donne pour les atteindre.
Jardimine, vous voulez réagir aussi.
Bon, je crois que vous touchez tous les deux là dans cette discussion au problème aussi de l'attitude que doit avoir le politique, l'État en l'occurrence, enfin les gouvernants à l'égard de ces experts qui ont un des angles du sujet. Bon, je ne sais pas si vous avez lu ou eu connaissance de ce livre qui est apparu en 2015 au Seuil, qui était fait par un historien de l'Antiquité, Paul Ismar, qui s'appelait La démocratie contre les experts, et qui racontait que dans l'Athènes démocratique du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des experts qui connaissaient, par exemple, qui vérifiaient les monnaies, ou de la relecture de textes juridiques, etc. Mais ce sont des tâches qu'on confiait à des esclaves. C'était l'État qui embauchait des esclaves pour faire cela. Ce qui signifiait, c'était une analyse de Paul Ismar, que le politique expliquait par là qu'en aucun cas un savoir ne devait devenir un pouvoir. Et donc finalement, ça rassurait de donner ça aux esclaves. Mais par ailleurs, ça voulait dire que le savoir peut exister en démocratie, mais aussi qu'il doit circuler. Et il y avait des commissions de citoyens qui discutaient de plein de choses. Mais les figures très techniques d'expertise étaient confiées à des esclaves. C'est intéressant, nous sommes loin de le faire aujourd'hui. Je pense que les experts ont pris des vrais lieux de pouvoir au sein de l'État. Évidemment, il faudrait pas non plus lire ce livre en disant « remettons des esclaves ». Enfin, il peut y avoir une lecture populiste de ce livre. C'est pas ce qu'on veut dire non plus.
Mais
ça fait réfléchir au bon rapport de la politique démocratique à l'expertise.
Vous me donnez l'occasion, Géraldine Mühlmann, de passer au thème qui me paraissait central dans cette émission, c'est la question du peuple qui sera approprié ces questions. Laetitia Straude-Bonnard, est-ce que le peuple peut être aussi un expert des questions qui le concernent ?
Alors, je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Quand vous êtes garagiste, vous êtes expert de votre garage. Quand vous avez un métier, métier manuel ou intellectuel, quel qu'il soit, vous êtes aussi un expert. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de paradoxal, en fait, dans le fait que, finalement, les gens qui parlent le plus de l'expertise, y compris celle des autres, sont des gens qui ne font pas forcément les choses. Et d'un autre côté, vous avez beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et qui ne parlent pas du tout de ce qu'ils font.
Mais est-ce qu'on peut prendre votre exemple du garagiste et le transposer sur des questions comme le nucléaire, la régulation de la finance, la question de la dette, qui sont des questions politiques, évidemment, mais qui nécessitent un très haut niveau de compétences techniques pour parler de ces questions, justement.
Je pense que tout le monde ne peut pas être expert de questions extrêmement techniques. C'est vraiment impossible. Moi, demain, je ne peux pas devenir expert du nucléaire, de biologie moléculaire, d'astronomie, de garage non plus. Il y a des domaines, quand même, et je tiens à cela, à des domaines objectifs de savoir et d'expertise. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se sont complexifiées et que tout le monde n'est pas capable de les comprendre, mais tout le monde, y compris nous autour de cette table. Et c'est ça qui est très difficile. C'est que comme on a du mal à placer la limite entre les choses qui ne concernent que ces experts-là et les choses qui devraient concerner tout le monde, on ne sait pas et on a l'impression de se faire toujours avoir finalement, que les experts prennent des décisions pour nous dans les domaines où on pourrait prendre des décisions.
Daniel Agacinski, ce populisme fait partie de cette défiance que vous décrivez dans votre rapport ?
Pour rebondir sur ce que disait Laetitia à l'instant, personne ne voudrait d'un monde où c'est le garagiste qui décide des lois sur les garages tout seul, où c'est l'expert en nucléaire qui décide souverainement la loi sur l'énergie et où chaque spécialiste finalement tirerait de son savoir un monopole sur le pouvoir relatif à ce sur quoi il détient un savoir. Effectivement, on ne peut pas tous être spécialistes de tout. C'est de plus en plus vrai du fait de la diversité et de la technicité du monde dans lequel nous vivons. Et justement, la question est celle de la façon dont on met les savoirs au service, pas forcément comme esclaves, mais un peu quand même malgré tout, au service des choix collectifs et des décisions qui, elles, tant qu'on est un peu démocrate, relève du collectif. Et c'est là que se situe une forme qu'on peut appeler de populisme, mais en tout cas de volonté de s'émanciper de la confiscation du pouvoir par ceux qui savent, et qui consiste à dire parce que ce n'est pas parce que je ne sais pas la technique que je ne dois pas avoir voix au chapitre. Et l'enjeu pour répondre à cette aspiration-là, c'est de la diffusion de ce savoir, c'est de la réponse aux aspirations qui sont portées par ce qu'on peut appeler des mouvements de type populiste. Et il y a une réponse qui est très intéressante qui est apportée à ça par l'économiste Danny Roderick, qui fait une distinction subtile entre ce qu'il appelle le populisme économique et populisme politique. Il dit, au fond, le populisme politique, c'est, dans sa version sud-américaine classique, c'est le chef qui tire sa légitimité du peuple et qui décide souverainement. Le populisme économique, ça peut être une manière de répondre de manière qui n'est pas forcément conforme à ce que dit la doctrine économique, mais à des aspirations populaires qui s'expriment en revendications économiques. Il dit peut-être qu'il faut accepter de mettre un peu de populisme démocratique, c'est-à-dire d'accepter qu'on entérine la volonté populaire sur des décisions économiques contre la volonté des experts pour se prémunir un peu de populisme politique.
Laetitia Strode-Bonnard, je vous fais réagir sur ce point.
Mais ce que vous me dites me fait penser au Brexit. C'est-à-dire que dans le débat sur le Brexit au Royaume-Uni, on a dit aux Britanniques, ne votez surtout pas pour le Brexit parce que de toute façon, ça va plomber la croissance, ce sera une catastrophe. Ça n'a pas plombé la croissance comme le gouvernement l'avait prévu, donc les experts se sont trompés. Mais surtout, moi j'ai beaucoup entendu de la part des gens qui soutenaient le Brexit qu'ils étaient prêts à sacrifier une petite partie de leur prospérité future pour avoir leur Brexit. Donc c'est très intéressant, c'est vraiment un exemple d'un cas où on sait ce qui va se passer, ou à peu près, où il y a plusieurs faits possibles.
Donc en connaissance de cause, avec une expertise documentée sur le coût du Brexit, par exemple.
Oui, le coût à long terme, c'est-à-dire qu'à moyen terme, il n'y a pas eu de
En conscience,
de
on choisit d'aller vers Brexit.
Dans le long terme, ce sera certainement le cas. Mais en conscience, ils disent très bien, c'est le prix à payer, eh bien on le paiera. Ça, c'est intéressant.
Alors, Daniel Agacinski, vous représentez France Stratégie autour de cette table, qui est un organisme, donc je le disais en introduction de cette émission, placé sous l'autorité du Premier ministre. J'ai une question très franche à vous poser. Est-ce que la conscience de cette défiance vis-à-vis de l'expertise, elle existe, cette conscience, dans les cercles de l'État, dans les hauts dirigeants de notre pays? Est-ce que, dans la façon dont les élites sont organisées aujourd'hui, il y a peut-être l'idée que peut-être il y a quelque chose à changer, peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans la façon dont on s'adresse au peuple, à ses administrés, par exemple? Est-ce que cette conscience, elle existe selon vous dans la façon dont l'État fonctionne aujourd'hui?
Sans forcément répondre à l'échelle de l'État dans son ensemble, je pense qu'une institution comme France Stratégie, elle se pose ces questions-là aujourd'hui parce qu'elle se les était posées dans des rapports antérieurs où on voyait ces écarts, ces distances, ces phénomènes d'incompréhension. Et ce qu'on dit, c'est que pour le traité, d'abord on dit qu'il faut le traiter, on dit qu'il faut le prendre en compte. Et ce qu'on dit, c'est que pour le traité, il ne faut pas simplement s'adresser autrement, cette fameuse histoire de pédagogie, mais qu'il faut ouvrir les portes aux expressions de défiance pour se rendre nous-mêmes plus intelligents. Parce que l'idée, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de cette défiance-là, parce qu'il y a effectivement des choses qu'on ne voit pas. Quand on dit sur le Brexit que effectivement il y a des prévisions de catastrophe économique et que malgré cela, le choix il est effectivement fait en un certain sens en conscience, eh bien il faut essayer de comprendre pourquoi et que c'est ça qui va nous rendre plus intelligents dans l'exercice de l'expertise du même.
Gérard Immuman, l'État aussi et les élites dirigeantes ont leur part de responsabilité dans la façon dont ils organisent la fabrication de l'action publique?
Oui, c'est-à-dire que, bon, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, l'État a tendance à utiliser l'expert pour ne pas prendre de risques. Et donc, au lieu d'en faire un esclave, il le met sur le trône, en vérité. Et donc, alors, j'ai pas dit qu'il faut les mettre en état d'esclavage, mais enfin, c'est la question du lien aux experts qui est posée. Je pense qu'au fond, nous avons deux figures en ce moment antithétiques, ça m'inquiète, c'est ou l'expert ou le chef. Et je pense que les deux figures sont inquiétantes parce que ce sont deux figures hostiles à la seule chose qui pour moi ouvrirait l'avenir, qui est retrouver des formes de prise de risque, de co-construction des savoirs, un vrai rapport à l'opinion, parce que comme vous l'avez dit Laetitia, les gens sont prêts à prendre des risques, à ne pas tout savoir sur l'avenir, à ouvrir des portes, mais évidemment ils peuvent bloquer cela en allant vers un chef qui finalement va leur promettre des lendemains qui chantent, etc. Je crois que ce sont les deux figures dialectiques, dirait d'autres, que nous n'évoquons pas ici, mais c'est vraiment ça marche ensemble, et je suis très inquiète pour une démocratie de la pluralité et de la prise de risque et du sens de l'inconnu, parce que je crois que c'est la vérité sur l'avenir en politique. Ni l'expert ni le chef ne peuvent nous dire ce qui constituera demain.
Daniel Agacinski, comment sortir de cette défiance justement? Dans votre rapport, vous donnez des pistes. Hein. Vous parlez par exemple d'un défenseur du droit d'accès dont le travail serait d'interpeller les experts qui participent à la fabrication de l'action publique. On voit d'une façon générale, c'est la question de l'ouverture aux citoyens, de l'intégration des citoyens. Vous parlez d'inclure cette défiance. Comment ça fonctionne concrètement, et un défenseur du droit d'accès et une inclusion de cette défiance? Daniel Agacinski.
Ce qu'on a proposé sous le titre donc, de défenseur du droit d'accès aux expertises, c'était quelque chose qui prend un peu modèle sur le défenseur des droits endroit. C'est-à-dire, vous avez un phénomène social que vous mesurez imparfaitement, en l'occurrence les discriminations, c'était l'un des moteurs de l'installation du défenseur des droits, et vous avez besoin de créer quelque chose qui est à la fois un thermomètre et une porte d'entrée pour transformer une institution du fait de la capacité qu'auront les citoyens à frapper à cette porte-là et à y entrer. Et donc l'idée, c'est que vous avez une question sur les vaccins, vous avez une question sur, je disais tout à l'heure, les rythmes scolaires, vous avez une question sur le SMIC, vous avez une question sur... Mais au fond, qui consiste à se dire, telle décision a été prise, mais sur la base de quelle connaissance ? Vous écrivez, vous tweetez, vous passez par Facebook, vous vous adressez à cette instance, à ce service qui serait représenté par quelqu'un qui aura une visibilité, et ça vous renvoie spontanément vers ce que, à un moment donné, les institutions d'expertise donnent, et ça fait un bilan de chaque année. Voilà, les Français qui ont saisi ont dit qu'ils n'étaient pas convaincus par telle décision prise sur telle base, par telle expertise, qu'il faudrait revoir, etc. Et après, vous avez des mécanismes qui enclenchent de nouvelles expertises, de nouvelles recherches. Vous pouvez avoir un budget citoyen pour des recherches qui porteraient sur des sujets qui ont été pas bien traités par l'expertise présente. Vous pouvez avoir un truc auquel on tient beaucoup, qui est d'impliquer des citoyens dans l'évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, on le fait un peu dans la fabrique de la loi, on peut contribuer, mais si on est fidèle au principe constitutionnel selon lequel il faut rendre compte de son administration, il n'y a aucune raison que l'évaluation des politiques publiques soit uniquement par le Parlement, par le gouvernement, mais que pour ouvrir le type de questions qu'on pose sur combien coûte une politique, à quoi elle sert, quels effets elle produit, ça pourrait être très intéressant de faire entrer des panels de citoyens dans la construction des questions et l'interprétation des réponses.
Laetitia Strout-Bonnard, cette inclusion des citoyens et cette transparence, ça peut être ça qui serait une réponse à cette défiance contre les experts ?
Alors, je trouve votre proposition intéressante. Cependant, je la trouve un petit peu surprenante parce que, d'une certaine façon, en fait, vous faites venir les gens vers les experts et pas les experts vers les gens, et surtout vous étatisez en fait la question. Moi, il me semble que la réponse, comme j'ai essayé de le suggérer tout à l'heure, c'est aussi de laisser les experts être expertisés, comme je l'ai dit, par les médias, mais aussi par ceux qui les écoutent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait avec votre proposition de tout centraliser et de ne passer que par l'État ? Mais l'État ne sait pas forcément, n'est pas synonyme de vérité ou de savoir total. Donc votre procédé est un petit peu étrange, je trouve.
Alors, la nuance par rapport à ce que vous dites, c'est que par exemple, on pourrait proposer aux citoyens d'évaluer la qualité de la réponse qui leur est apportée. Ce qui est une manière aussi de leur donner un peu le dernier mot, malgré tout, dans l'affaire. Et la centralisation, pourquoi cette proposition d'avoir une porte d'entrée centralisée ? C'est parce qu'aujourd'hui, si vous avez une question sur les vaccins, à qui vous la posez ? Si vous avez une question sur le nucléaire, à qui vous la posez ? Je dis, vous avez 150 agences différentes d'expertise et donc vous ne savez pas forcément à qui vous adresser. Donc voilà, on pose les propositions de là où on est aussi. Et que la société civile, que les médias s'emparent de ce sujet et créent des points de contact et des points d'échange, ce serait encore bien mieux, évidemment. Mais on ne peut pas simplement demander aux gens de faire quelque chose. On propose, de là où on est, de l'État, quelque chose qu'on pourrait faire mieux.
On arrive à la fin de cette émission. Géraldine Milman, je vous fais réagir aussi sur ces propositions du rapport de France Stratégie. Inclure les citoyens, ça marche. C'est quelque chose qui permettrait de...
Oui, c'est déjà suffisamment sympathique, Laetitia, de la part d'une structure d'État qui est l'ancien commissariat au plan, quand même. Vous me l'avez rappelé tout à l'heure, Daniel Agacinski. Pour qu'on salue quand même ce désir d'ouverture de l'État. C'est vrai qu'on pouvait quand même pas espérer encore plus, c'est-à-dire que l'État se ferait harakiri et dirait ça ne doit plus partir du tout de l'État. Je pense que c'est le maximum que vous puissiez faire dans une institution étatique. Et donc, rien que pour ça, il faut le saluer. Le reste, je crains que ça dépende pas seulement des volontés, c'est-à-dire on est dans un moment où les gens ont très envie quand même d'une figure du savoir. Alors je pense que par exemple qu'il y a des nostalgies de l'intellectuel universel contre les intellectuels spécifiques, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a envie d'en finir avec l'expert, mais pourquoi ? Pour le prophète ou pour le chef, comme disait Max Weber en 1917 ? C'est pas si formidable non plus. Je crois qu'on a du mal à inventer la fin de l'expert et le début d'autre chose qui ne soit pas une forme d'autorité à sa façon.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Daniel Agacinski, vous publiez donc ce rapport pour France Stratégie, expertise démocratie, faire avec la défiance. On peut le trouver en ligne sur la page de votre institution. Merci à vous, Laetitia Strout-Bonnard et Géraldine Milman. Et merci à toute l'équipe du Grain, à Moudre, Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Ledio, Guillaume Laguigné. Cette émission a été réalisée par Perret Legras et Émilie Valla. À la technique ce soir, Jordan Fuentes.